Je vous donne un autre chiffre. Là, c'est au niveau de ces chiffres, c'est l'OCDE. Hein? Si je prends la richesse produite globale, bon, en économie, ça s'appelle le PIB, produit intérieur brut, ou bien la valeur ajoutée, si vous la somme des valeurs ajoutées. Cette richesse produite tous les ans, elle se divise en trois grandes masses. Il y a la masse qui revient à ce qu'on appelle le coût salarial global, c'est-à-dire salaire et cotisation sociale. Il y a les impôts liés à la production, je ne vais pas en tenir compte là, ils sont relativement fixes sur les périodes, voire en baisse. Et ensuite, il y a la part qui revient aux revenus du capital, tous confondus, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes, les loyers. Ce sont les grandes, et bien sûr, les revenus que garde l'entreprise, l'épargne brute des entreprises. Si je regarde donc l'évolution de ces masses, je vais regarder l'évolution de la masse qui va au coût salarial, de la masse qui va au capital. Alors, 1982, source OCDE, 1982, la part du coût salarial global, salaire et cotisation sociale, dans la richesse produite, à la valeur ajoutée globale, c'était 76%, 1982. 2003, c'est 65%. C'est-à-dire, en 20 ans, une baisse de 10 points de la part de la richesse qui allait du travail vers le capital. Alors, il faut voir que ça représente 10 points. En 2002, le PIB, la richesse produite, a été à peu près, valeur réelle, de 1400 milliards d'euros. Donc vous voyez que 10%, ça fait 10% en 2002, ça fait 10%, 10% de 1400 milliards d'euros, vous faites le calcul, ça, on peut imaginer qu'il y a des ressources quand même qui pourraient permettre d'envisager une autre réforme du système de retraite. Donc en 20 ans, je répète, en moyenne tous les ans, c'est 10 points de la richesse qui sont partis des salaires vers les revenus du capital. C'est là d'ailleurs que vous avez le secret de ce qu'on nous présente comme une espèce d'énigme, une espèce de deus ex machina de la bourse. Pourquoi la bourse a flambé dans les années 80? Ce n'est pas parce que la bourse toute seule serait capable de produire de la richesse. La bourse ne produit rien. La richesse, elle est produite au niveau de la production. C'est le produit du travail, la richesse. La bourse, elle capte des revenus du capital, elle capte une épargne qui fructifie en bourse. Et donc, la poussée de la bourse dans les années 80-90, et avec même la bulle spéculative, la seule explication qu'on a, c'est celle-là. C'est-à-dire que cette part de la richesse qui a été ponctionnée sur les salaires, et qui est allé vers les revenus du capital, et bien dans ces revenus du capital, l'essentiel de ces revenus s'est retrouvé placé dans les bourses et a alimenté la hausse boursière et voire la spéculation boursière. Ce qui explique également que cette hausse faramineuse des revenus du capital, dont on aurait pu attendre une hausse de l'investissement, parce qu'en économie, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le profit entraîne l'investissement et donc entraîne l'emploi. C'est ça qu'on apprend aux étudiants. Et donc il faut du profit pour que les entreprises puissent investir, pour qu'il y ait de l'emploi. Eh bien, ces fameux 10 points sur 1400 milliards qui sont partis des salaires vers les revenus du capital se sont beaucoup plus investis dans des placements financiers en bourse qu'elles n'ont servi à de l'investissement qui génère des emplois dans les années 90. Voilà pourquoi dans ces années-là, vous avez une flambée boursière, vous avez en même temps une récession économique, surtout au début des années 90, récession très grave, début des années 90, et une poussée du chômage. Et ce poussée du chômage, je le dis pour la suite, elle ne vient pas d'un problème du profit. C'est pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de profit qu'il n'y a pas d'investissement. On va voir le problème est absolument ailleurs. C'est parce que les profits s'investissent de manière non productive dans de la manipulation financière, dans des transactions purement financières qui ne créent pas d'emplois, voire qui en suppriment. Donc, c'est vrai que si on reste dans ce cadre-là de répartition des richesses, on ne peut plus financer le système des retraites par répartition. Parce que le système des retraites par répartition, il est fondé sur la part salariale. Donc si on continue à baisser encore, ou si on garde cette répartition-là, c'est vrai qu'on ne peut plus financer ce système-là. C'est d'ailleurs pour cela, c'est là qu'on comprend le sens des réformes. Hein. Le sens des réformes, c'est allongement de la durée de cotisation, bien entendu. C'est surtout pas hausse du taux de cotisation, parce que la hausse du taux de cotisation, à nouveau, ferait augmenter la part salariale dans la valeur ajoutée, dans la richesse produite. Donc on joue uniquement sur deux variables, c'est-à-dire, alors qu'il y en a trois, hein, on joue sur les annuités et on joue sur la baisse du niveau des retraites. Donc, si on garde, si on pense que cette répartition-là est une répartition des richesses absolument inéluctable, effectivement, ben là, il faut se faire acquérir. C'est vrai que ce n'est pas possible de financer le système des retraites par répartition tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors, on nous dit, oulala, la hausse du taux de cotisation, les Français n'en veulent pas, les impôts, les Français n'en veulent pas, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, on ne veut plus des prélèvements obligatoires, ça passe plus. On ne sait pas d'où c'est sorti, ça. En revanche, ce qui est censé passer très bien, et effectivement c'est assez bien passé, c'est une baisse de 10 points en 10 ans, en 20 ans, pardon, des revenus du travail vers les revenus du capital. Ça, ça passe bien. C'est parfaitement supportable par les Français, voire même si on pourrait un petit peu plus continuer, et visiblement, ça se passe très bien. La hausse du taux de cotisation, non, non, ça, c'est pas possible. Les prélèvements obligatoires, ça, les Français ne supportent plus. Alors, il y a quand même un petit problème, là, qui est à revoir. Alors, du coup, comme la solution choisie, c'est la baisse du niveau, la hausse des annuités et la baisse du niveau des prestations, sans le dire et de manière totalement cynique, on nous prépare une retraite à deux vitesses. Tout à l'heure, elle m'a parlé un petit peu pour les femmes. On aura aujourd'hui une majorité de personnes qui vont avoir le fameux minimum collectif dont parlait la Banque mondiale, qui sera assuré par une répartition minimum. Et donc, toute une part des retraités, et particulièrement les femmes, qui seront à cette retraite collective minimum, et c'est ensuite envisagé ainsi, c'est la possibilité et l'incitation pour les catégories moyennes et moyennes supérieures qui ont des capacités d'épargne, qui intéressent beaucoup les marchés financiers, je vous l'ai dit, de pouvoir souscrire à des plans d'épargne-retraite privés qui viendront compléter, bien entendu, la baisse attendue du niveau des retraites. Et ça va devenir, y compris pour des catégories moyennes, moyennes supérieures, avec l'allongement de la durée des études, avec la précarité de l'emploi, y compris pour les emplois qualifiés, hein, obtenir les 40 annuités, ça va devenir quasiment impensable. Donc nous savons que nous aurons tous des décotes qui seront calculées sur nos propres retraites, et donc surtout pour les moyennes, catégories moyennes, moyenne supérieure à capacité d'épargne, il va y avoir tout un système organisé de plans d'épargne retraite. Ça commence à se dire aujourd'hui, puisqu'il s'agit, dit-on, d'élargir la loi Fabius, qui déjà en 1999 permettait déjà des plans d'épargne retraite privés. Il s'agit donc de supprimer les quelques contraintes qu'il y avait, assez légères d'ailleurs, dans la loi Fabius de 1999.